Music du Monde. Laurence Aloua. Tegi Mfatrore. Music du Monde sur RFI.
C'est avec le chanteur et auteur breton Denès Prigent que nous allons passer la nuit, enfin je veux dire la soirée, à l'occasion de la sortie de son album Urmor Azaleu, qui veut dire une mer de larmes. Sur cette nouvelle galette physique ou numérique, l'artiste du pays de Léon rend hommage à la Guerte, qui est un chant qui remonte au 5e siècle et qui parle sans tabou de la mort et célèbre l'amour éternel. On n'en attendait pas moins de ce chanteur érudit et curieux de tout, puisqu'il a, des années durant, mélangé chant traditionnel et musique électronique. Il a aussi collaboré avec le rappeur du Bronx Masta Ace, ou ici en France avec Oxmo Puccino. Sa musique se retrouve dans les films de Ridley Scott et même dans la série culte américaine South Park. Denès Prigent, grand seigneur, retourne aux sources et nous avec. Attention, ce chant ni ne blesse, ni ne tue, il touche. Bonsoir.
E no vezan kavet yuzan oza garminti E no vezan kavet atristet gan nar glafa Sonja lemma mestres azo etan Ma maîtresse, ma roue ma orphelinia, ma roue ma flige à dire à tout ma en espérance. Miquel, mi j'ai songé. Camaro a deje Dale mere diganine ma dus ma ponte Te vi ponio arbe Dit ma plige gagnor, di sorridine ma deo. Dit ma plige gagnor, di sorridine ma bue. In ma sin dar benar, parler ma.
Denès Prigent, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Comme le temps, et la Namzer, comme on dit en breton.
Ah, c'est marrant, c'est une expression que j'aime bien aussi. Le premier titre que l'on vient d'écouter s'appelle « Ma bien-aimée est morte » et vous allez nous le prononcer en breton.
« Maro et ma maîtresse
voilà. ». Commencer un album avec un titre comme ça, est-ce que ça veut dire que ça donne le ton sur tout le reste du disque ? Est-ce que c'est dans une vallée des larmes que vous nous invitez cette fois-ci avec cet album qui s'appelle
« Mor Azaleu » ouais.
Une mer de larmes.
Une mer de larmes. Oui, bien sûr, ça donne le ton tout de suite parce que c'est un disque composé essentiellement de guerres. Alors la guerre, pour la définir, bon, il faudrait 3 heures, mais la guerre, c'est une forme de chant endémique à la Bretagne, qu'on ne trouve qu'en Bretagne. Il n'y a pas d'équivalent en français, c'est un peu comme le fado, la morna ou le lamentou, corse. Donc c'est un chant qui date de la nuit des temps, du 5e siècle exactement, et qui nous a été transmis jusqu'à présent, de génération en génération, par la transmission orale, de bouche à oreille, jusqu'à aujourd'hui, chaque génération apportant ses propres créations. Et ce sont des chants qui parlent tout le temps de faits dramatiques. On est dans le chant, nous ne sommes pas dans la chanson. La chanson parle plus d'événements propres à un individu, ses malheurs quotidiens, etc.
Plus nombriliste.
Voilà. Là, nous sommes dans le chant, c'est-à-dire il y a une dimension beaucoup plus large, plus universelle, où on parle d'événements tragiques, de faits dramatiques qui ont touché une large communauté, une population large, comme des épidémies, des meurtres, des batailles, des naufrages. Voilà, donc on est... et des décès de bien-aimés qui ont marqué aussi toute une population. Et de crimes aussi, oui, voilà, de crimes horribles, d'infanticides aussi, beaucoup. Donc le thème de la mort, qui est incarnée en Bretagne sous la forme de l'Ankou, le thème de la mort donc est omniprésent. Voilà. Et le fait de chanter, alors ça peut paraître un peu triste comme ça, mais en fait, vous me direz, ce sont des choses tristes, surtout dans la période actuelle. Et non, en fait, puisque le fait de chanter des événements dramatiques comme, ça, comme cela, c'est une façon de s'approprier une douleur et passer par le prisme de l'individu, c'est une façon pour lui d'exorciser aussi ses propres peurs et ses propres angoisses par rapport à la vie courante et par rapport aussi à la mort. La mort qui est devenue aujourd'hui tabou, on n'en parle pas, on cache les morts et la guerre en parle. On n'a pas peur de parler de la mort, le fait d'en parler, c'est une façon aussi de moins en avoir peur. La guerre, c'est quelque part une forme de pleurs, un blues d'avant le blues, puisqu'après avoir chanté une guerre, on est comme lavé, purifié de toutes les tensions et les angoisses qu'on peut avoir en soi, et on se sent mieux.
Donc j'ai en face de moi un homme purifié, désangoissé et prêt à mourir, dans la joie et la bonne humeur.
Disons que la guerre, c'est vrai qu'il y a une dimension sacrée. On est un petit peu à mi-chemin entre les vivants et les morts. Comme beaucoup en Bretagne, c'est vrai que chez les Bretons, il n'y a pas de mur entre les morts et les vivants. Souvent, on dit qu'il y a entre les morts et les vivants, il y a l'espace d'un petit papier à cigarette. C'est vrai que les morts et les vivants cohabitent très bien en Bretagne. Et toujours encore aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'il suffit de voir les cimetières au moment de la Toussaint. Ils sont aussi fleuris, certaines tombes sont aussi fleuries que le jour du décès du mort. Les cimetières, c'est vrai, sont comme de vrais jardins. C'est vrai que la mort, je ne pense pas que pour moi, c'est une fin en soi. Non, la mort est un passage. Et chez les Bretons, c'est beaucoup un passage aussi. C'est le passage d'un état à un autre. Souvent, d'ailleurs, dans les guerres, il y a les animaux, notamment dans mes guerres, celles que je compose, les guerres traditionnelles, les animaux parlent, on vous voit les animaux. Ils sont quelque chose, ont quelque part un caractère sacré. Et eux, ils savent justement le monde de l'invisible. Ils connaissent l'au-delà. Et on leur pose souvent des questions. Voilà, ce sont comme des traits d'union entre la vie et la non-vie, entre guillemets, la non-existence. Et on leur pose des questions et on a souvent des réponses. Il y a les intersignes aussi, les intersignes qui nous annoncent très souvent la mort, des présages de mort, qui nous annoncent la mort d'un proche. Donc tout ça, ce sont des choses qui me font penser en fait que voilà, la mort n'est pas, contrairement à notre société où on voit le temps comme quelque chose de linéaire et puis la mort comme un grand gouffre. En fait, voilà, pour moi, la vie n'est qu'un apprentissage, n'est qu'une école. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a appris suffisamment, on passe de l'autre côté, dans une classe supérieure, pour apprendre autre chose. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai peur de la mort, mais j'ai pas. Après la vie, la mort n'est pas une fin en soi. En fait. C'est qu'après, il y a quelque chose. Il y a notamment nos aïeux qui nous attendent derrière. Ça, c'est très, très fort chez les Celtes et chez les Bretons. Les défunts, d'ailleurs, en breton, on dira en aîné pour l'âme des vivants et en anaun pour l'âme des morts. Voilà. Donc, ce qui prouve que l'âme est toujours là.
Esked loa Arva gere Zafulene Uzanau Pen fentenende Omer nesgre Derby gelkoar Evi dokas Divar angoa Oit bemer Oal preshu Evi do permes Dar gualde oshu al quez anar ames golet men ames ken al quez be anau pen fenten un aret en un pal en des proget anar kergen en la nerez ne bet goude ni zur goude an ofer en bret ma fenerez hui bolos ken ar pa eron a gar vaironez ar bugel kvar ar gar benerez vo fe varez melos ken virag an dora vo dat me an au kupo la weleten a gazi from me evle ongwen o
Dénès Prigent est notre invité dans les musiques du monde pour parler de son tout nouvel album « Une mer de larmes ». Là, on vient d'écouter un titre qui s'appelle « L'enfant de cire ». Alors, le texte n'est pas c'est pas Youplaboum non plus.
Oui, comme toutes les guerres.
Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de cire ?
Un enfant de cire, c'est l'effigie d'une personne, en fait. C'est la représentation d'une personne. Elle est en cire parce qu'on pouvait lui enfoncer des aiguilles dedans. Et le fondre aussi, le mettre au feu. Donc, c'est l'histoire d'une héritière, une jeune héritière qui a fait un enfant de cire à l'image de son père pour que son père meure. Parce qu'elle doit être certainement amoureuse d'un homme que son père
lui refuse.
Donc elle décide de cet enfant de cire. Donc le début de la guerre commence par si les gens de Tréguier avaient verrouillé leur église, il n'y aurait pas eu un enfant de cire à l'intérieur de cette église baptisé à la pleine lune. Donc elle a baptisé cet enfant de cire dans l'église avec un parrain, avec une marraine et un prêtre qu'elle a payé. Et à la fin, on a écho. Que le père a écho, que son apprend que sa fille a fait un enfant de cire pour l'envoyer à la terre, comme on dit en breton, pour l'envoyer sous terre. Et la fille
finira brûlée
avec le parrain, la marraine et le prêtre.
Eh oui, merci Dénès.
C'est le père lui-même qui amènera le bois au bûcher. Oui.
J'espère que le bois était vert. Vous savez qu'à l'époque, quand le bourreau aimait bien la personne suppliciée, mettait du bois vert, parce que
oui.
Le bois vert fait beaucoup de fumée.
Oui.
Et en fait, les gens mouraient asphyxiés avant de mourir brûlés.
Voilà.
Donc c'était une manière de les soulager un peu, soulager.
Oui, oui.
Une manière de voir les choses.
Oui, j'ai entendu parler de cette histoire.
Alors, vous parlez de Tréguier. Le Tréguier, c'est juste à côté du pays de Léon dont vous êtes originaire, c'est-à-dire c'est au nord-ouest du Finistère.
Voilà, c'est le Trégor. Voilà, c'est dans le Trégor.
Oui, ouais, c'est ça.
La Bretagne, c'est Breizisel, Breizuel. La Basse-Bretagne, la Haute-Bretagne. La Basse-Bretagne, c'est la Bretagne bretonnante. La Haute-Bretagne, c'est la Bretagne gallo. Et la Bretagne bretonnante, donc la Basse-Bretagne, est constituée de 4 pays, dont la Cornouaille, le Pays Vannetais, le Léon et le Trégor.
Ah, c'est marrant que vous parliez de la Cornouaille, parce que quand j'écoute votre musique, quand j'écoute votre voix, vos dessins aussi, ça me fait penser aux Sœurs Brontë.
Ah oui,
il y a une espèce de mélancolie un peu étrange et fascinante et parfois inquiétante qui sort de ces terres-là et j'allais dire par osmose, atteint aussi les gens qui vivent sur ces landes, sur ces terres.
Oui, c'est vrai qu'on peut retrouver dans la guerre une certaine forme de nostalgie ou de mélancolie que l'on retrouve dans le romantisme, mais ce n'est pas anodin, puisqu'en fait, Marie de France, au XIIe siècle, qui est la première dame de lettres, dans toute l'Europe, c'est la première femme à écrire. Donc, elle était originaire du nord de la France. Elle a eu écho de la beauté des Guerres. Voilà, pour découvrir davantage cet univers de la Guerre. Donc, elle a appris le breton. Et elle en a traduit un certain nombre qui sont devenus les bretons de Marie de France, qui ont eu énormément de succès. Elle les lisait en français, donc, dans toutes les cours européennes. Et plus tard, au XIXe siècle, les écrivains français se sont intéressés. Il y a eu un regain d'intérêt pour ces lais bretons de Marie de France et le romantisme est né. Donc le romantisme, quelque part, trouve ses racines dans la Guerre bretonne. De même, d'ailleurs, il y a un trouvère du XIIe siècle qui a traduit une Guerre en breton qui s'appelle Bran et le prisonnier de guerre. Et c'est devenu le récit de Tristan et Iseult.
Vous êtes un numéro, hein, Dénès Prigent. J'entends par là, vous avez une connaissance approfondie de l'histoire de la musique et des cultures celtiques, et en particulier des cultures, des cultures bretonnes. Et à côté de ça, dans votre CV, je vois Ridley Scott, South Park, Arnaud Rebottini, Ian Tiersen, Oxmo Puccino. Vous avez touché à tout. Vous pouvez parler des druides comme vous pouvez parler d'électro. Comment ils ont fabriqué votre cerveau, vos parents?
Je crois que pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit le temps d'une manière linéaire, mais Disons, moi, je pense qu'il y a toujours des résurgences de motifs ou de formes du passé qui reviennent aujourd'hui. Par exemple, le Conadiscon, qui est un chant à danser en Bretagne, chant à répondre, chant et contre-chant. Donc, il y a deux chanteurs qui se relaient l'un et l'autre sur un rythme régulier. Et la mélodie, généralement, est très répétitive. Et donc, c'est un chant qui est interprété dans le cadre de Fesnoz. Et ce chant amène le public à la transe, quelque part. Son but, c'est ça, amener le public à la transe. Et finalement, la vitesse rythmique, ce côté répétitif, les roulements de langue qu'on peut trouver, toute cette technique vocale, on la retrouve finalement, on peut la retrouver dans le rap ou on peut la retrouver aussi dans le dance floor. Voilà, donc il y a des rythmes comme ça très anciens, notamment en musique africaine aussi, notamment, qui, voilà, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, ressortent comme une source comme ça, qui rejaillit. Mais sous une forme différente, voilà.
Vous avez été aussi un révélateur, parce qu'en 92, lors des Transmusicales de Rennes, on vous a appelé la révélation, parce que Transmusicales de Rennes, c'est rock, c'est électrique, etc. Vous êtes arrivé vêtu de noir, tout seul a cappella sur scène. Au début, le public était un peu perplexe, mais vous les avez embarqués.
Oui, mais là, c'était un petit peu j'ai pris un peu les gens à contre-pied. Là, c'est un moment, on vit, et c'est pour ça aussi, un petit peu ce disque aussi, aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans la société de l'entertainment, où la musique doit à tout prix...
Distraire,
voilà. Et finalement, presque, ça devient gênant même dans certains festivals.
Le divertissement.
Ouais. Voilà, il faut que ce soit du divertissement, il faut que ce soit de l'animation. En fait, le sens des paroles n'a plus vraiment d'importance, il faut que les gens claquent dans leurs mains. Voilà, et finalement, certains festivals deviennent... Parfois, on a l'impression de... Enfin, il m'est arrivé de chanter devant... Bon, ça, c'est rare, mais il m'est arrivé parfois de chanter devant un camping, en fait. Voilà, des gens qui sont là, qui écoutent plus ou moins... Et c'est vrai que ce disque vient un petit peu à contre-pied. Voilà, il rappelle un petit peu aux gens, ben voilà, il y a la musique aussi. Et le verbe aussi est important.
Soldat le fur, en breton, ça se dit comment, d'un esprit jaune?
Soudard Arfur.
Soudard Arfur.
Ça commence par Les soldats sont habillés de rouge, les prêtres sont habillés de noir. Voilà.
Bah, c'est normal, les soldats sont amenés à saigner, donc oui. Comme ça, ça ne se voit pas sur le costume. Et voilà. Quant aux prêtres, je n'ai pas d'idée. Les 10 titres qui apparaissent sur cet album, la plupart sont des traditionnels que vous avez arrangés. Il y a un peu de composition originale aussi, Denis Prigent.
Oui, ce sont des traditionnels, des guerres traditionnelles qui m'ont accompagné depuis pendant tout mon parcours musical. Des guerres très anciennes, des guerres plus récentes. Guerres très anciennes comme La Peste d'Elian, Posen Elian, que l'on trouve dans le Barzaz Breiz, qui est un recueil de chants, de guerres principalement. Donc une guerre du 7e siècle qui évoque la grande peste qui a fait plusieurs millions de victimes à cette époque dans le pays du Fawet. Plus récente du 17e, une guerre en tout cas que j'ai composée, voilà, qui s'appelle la famine de Kiev. Une guerre donc qui relate cette grande famine qui a eu lieu en 1932-1933 à Kiev et dont on parle très peu finalement et qui a fait des plusieurs millions de victimes. Je l'ai composée un jour quand j'étais en studio, après une séance de studio, j'étais tombé sur un reportage qui en parlait. Il y a certaines scènes qui m'avaient vraiment profondément touché. Et je ne connaissais pas l'Holodomor, je n'en avais jamais entendu parler. Et je me suis dit, voilà, ça c'est l'occasion tout à fait de composer une guerre. Parce que la guerre, c'est un chant de mémoire aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que les médias parlent pendant 2-3 jours d'un événement, et puis ensuite ils zappent, et puis on passe à un autre. Et la guerre a ce moyen de mettre en vers, et dans une poésie absolument sublime, des événements tragiques qui sont arrivés pour les garder en mémoire pour les générations futures.
Est-ce que vous pensez qu'un personnage comme Jacques Brel aurait pu être ou était un bon chanteur de Gwerz, mais en langue française ?
Jacques Brel, c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu une icône pour moi. C'est vrai, autant c'est vrai, j'en ai en Bretagne, notamment Madame Bertrand ou les Sœurs Guadec, qui sont pour moi de grandes chanteuses.
Sœurs Guadec qui sont dans votre album, vous
voilà,
avez compris.
Qui ont ce côté, quand on les entend, il y a un côté universel, atemporel, hein. Bien que ce ne soit pas forcément bien enregistré avec des technologies très modernes, mais quand on les écoute, on est toujours... Ce sont des chants qui ne... Des façons d'interpréter, des chants qui ne vieilliront jamais. Enfin, je pense qu'on est plus dans le domaine du chant que de la chanson. Je pense que les chansons vieillissent un petit peu. C'est vrai, si on entend certaines chansons d'après-guerre ou d'entre les deux guerres, de Maurice Chevalier, etc., c'est vrai, ça a pris un peu la poussière. Mais justement, Jacques Brel, aujourd'hui encore, quand je l'écoute, c'est toujours frais.
Barbara aussi.
Oui. Voilà. Mais c'est vrai que pour Brel, c'est un des rares chanteurs aussi que, même si on coupe, si on le regarde par exemple sur une vidéo, si on coupe le son, on sait de quelle chanson il s'agit. Puis il y a Barbara, bien sûr.
Et Brel, il avait ce côté, je monte sur scène et je donne tout comme si c'était la dernière fois.
Voilà,
c'est ça. Je ne protège pas beaucoup.
C'était ça. Il a eu une carrière très courte aussi, je pense que. Parce qu'au moment où il a su quitter la scène, quand il a dû se dire, qu'il avait tout donné, quoi. Il n'avait plus rien à donner, et il a su quitter la scène, et ça c'est très respectable. Il y a beaucoup de, sans médire, hein, mais je pense qu'il y a il y a certains chanteurs, je pense, qui ont fait le tour de la question et qui continuent malgré tout à rester sur scène, alors que peut-être parfois il ferait mieux de s'éclipser. Et Jacques Brel a été de cela, qu'il a dit, j'ai tout donné, et maintenant, voilà.
Vous êtes dans cet état d'esprit, vous savez, moment vous partirez ?
Oui.
Du monde public.
Oui. Jacques Brel, vous savez, pour moi, sur scène, pour moi, c'était un modèle aussi, hein, quelque part. Tout jeune, j'étais. Je chantais Jacques Brel, je chantais Amsterdam, notamment, dans les radios crochets, je chantais en breton, et je chantais aussi Jacques Brel. Il a le charisme, il a les paroles, il a la voix, donc c'est vraiment le chanteur par excellence. Et aussi, je pense que cet état d'esprit qu'il a de tout donner sur scène, moi, j'essaye, en fait, de faire comme lui aussi. Et le jour où je jugerai avoir tout donné, je pense que je laisserai ma place à d'autres. Et là, peut-être aussi, comme c'est très souvent le cas dans le chant traditionnel, dans le monde, dans l'univers du chant traditionnel en Bretagne, on transmet. À ce moment-là, j'essaierai de transmettre aussi aux plus jeunes ce que j'ai pu apprendre.
See you.
Esprit Jean, ce 12e album, vous l'avez enregistré dans une église, c'est la première fois que vous enregistrez dans un lieu sacré ?
Oui, c'est la première fois, oui. Parce que c'est vrai que la Guerre a ce côté sacré qui se prête bien à ce genre de lieu, empreint de spiritualité. C'est vrai qu'on ne rentre pas dans une église comme on rentre dans un studio ou dans une salle de concert. Quand on rentre dans une église, on y rentre avec un certain respect, qu'on soit croyant ou non. Et c'est le silence qui prime. Et donc toute la place est donnée au chant et à la musique.
Et au niveau de l'acoustique, ça s'est passé comment ? Parce qu'il y a quelques secondes de réverb, enfin je ne sais pas. Comme...
Voilà, mais justement ce qui est intéressant dans les églises, ce sont des réverbs naturels. Très souvent dans les studios, ce sont des réverbs électroniques que l'on reproduit très bien parfois. Il y a des machines électroniques qui le reproduisent très très bien, parfois même à l'identique. Mais c'est vrai que quand on chante avec la réverbération en direct. Tandis qu'en studio, très souvent la réverbération est rajoutée ensuite. Donc le rythme n'est pas le même. Et là, notamment quand j'ai interprété a cappella, le titre, quand parfois dans certains chants, au milieu du chant, les instruments se taisent pour laisser place au chant pour un couplet ou deux. Là, c'est vrai que le chant, la guerre, prend toute sa dimension. Parce que la réverbération du lieu est un peu comme un sillage. Et elle donne une couleur à la voix. Elle révèle un peu la voix dans sa nature. Et finalement, ce silence, notamment quand les phrases, quand les vers chantés s'estompent, ce silence est un peu comme un instrument. Je pense que le silence fait finalement la première des musiques, finalement. Ou en tout cas, il contient en lui toutes les musiques à venir. Oui.
Ça existe en solfège, ça s'appelle la demi-pause, la pause, voilà. Le silence.
Voilà. Mmh. Et quand le chant, c'est vrai que ça arrête, après chaque couplet, on a l'impression de... Voilà, il y a une sorte de sillage qui est donné comme ça. La voix continue, sans qu'on soit en train de chanter. La voix continue, un peu comme une vague, un peu. Une vague qui vient s'écraser comme ça sur le rivage. Et un autre couplet arrive, une autre vague arrive. Et puis c'est continu comme ça. Et c'est très... Voilà, cette image de la mer, peut-être, il y a des vagues comme ça qui meurent sur la plage. Je pense que c'est vrai, elle correspond bien à la guerre. Il n'y a pas de refrain. C'est un chant monocorde, hein, c'est un chant monodique, assez répétitif. Et il y a peu d'écart entre les notes. Et c'est vrai qu'on a un petit peu l'image, quand on écoute une guerre ou quand on l'interprète, on a un peu l'image de la mer, côté incessant.
J'ai pas le souvenir que vous ayez souvent enregistré avec des enfants. Là, il y a des petits briochins, enfin le chœur d'enfants de la maîtrise de Saint-Brieuc.
Oui, c'est la plus ancienne maîtrise de Bretagne. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec des formations conséquentes, hein, avec des bagates où il y avait parfois 70 sonneurs sur scène, avec un orchestre aussi et des orchestres symphoniques. Ça fait depuis très longtemps que j'aspirais à faire quelque chose aussi avec des enfants. Chez moi, notamment, j'en écoute aussi. J'aime bien ce côté angélique, ce côté très pur comme ça, des voix d'enfants.
Avant la puberté.
Voilà. Et là, l'occasion m'a été donnée. C'est en fait Goulevé Néraud, le directeur de cette maîtrise, qui assurait la première partie d'un de mes concerts à l'église de Saint-Brieuc, à la cathédrale de Saint-Brieuc, qui m'a proposé de faire 3 titres dans mon répertoire. Et je me suis dit, ça serait intéressant de poursuivre l'aventure sur cet album. Et voilà, donc la Guerre est très sombre comme ça, comme une église. Hein. Les églises sont très sombres et ces voix d'enfants là sont un petit peu comme les vitraux. Les vitraux qui viennent, le soleil qui passe à travers ces vitraux et qui viennent rayonner comme ça dans cette église avec ce côté angélique et divin un petit peu.
Continuez à dessiner sur la table de la cuisine avec un stylo bille noir, parce que je sais que vous avez sorti des albums de dessin.
Alors je continue toujours à dessiner, c'est vrai que mais c'est un peu un jardin secret, j'aime pas trop montrer mes dessins. J'accumule des dessins, et c'est vrai qu'ils sont en noir et blanc aussi, mais pas de couleur, c'est uniquement du stylo à bille. c'est le noir, le blanc. C'est un peu comme le chant a cappella, quelque part, par le chant par lequel j'ai commencé. Hein, la Guerre bretonne était interprétée à l'origine a cappella. C'est comme ça que j'ai commencé. Il y a la voix, il y a le silence, il y a le son, il y a l'absence de son, il y a le noir, il y a le blanc. Voilà, c'est un petit peu une sorte de correspondance. Je ne suis pas trop dans le multicolore. Et ce style-là me correspond bien. C'est vrai que le dessin est pour moi comme une forme de... C'est très différent de la musique. La musique, à part le chant a cappella, bien sûr, mais en musique, quand on a une composition, quand on a une mélodie, un texte, bon, il faut ensuite l'habiller avec une instrumentation. Donc très souvent, entre le début et la fin, il y a environ 6 ou 7 mois qui sont écoulés. Et le dessin, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette immédiateté. Entre 3, 4, 5 jours, voilà, le dessin est fait, quoi. Puis il y a cette forme de... C'est une forme de yoga, quelque part. C'est vrai, quand je dessine, je suis complètement... complètement avec moi-même.
Absorbé.
Oui, absorbé par le dessin. Le temps s'arrête aussi. Un peu comme quand je chante aussi, d'ailleurs, sur scène. Le temps s'arrête.
Et donc, le temps s'arrête. Est-ce que vous êtes heureux dans ces moments-là? Au moment où vous chantez, vous dessinez, ce sont les seuls moments où la vie est possible? Où la mort est possible?
C'est vrai que quand on arrête le temps, en tout cas, c'est vrai que c'est une façon de s'échapper, en tout cas, de tout ce monde cruel dans lequel nous vivons, et de plus en plus cruel, et de ne plus penser, de démentaliser, en fait. C'est plus le mental qui prend le mental, on le met entre parenthèses, c'est le cœur qui parle, ou c'est l'âme aussi. Et ça, c'est, je pense, et c'est aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont coupés de leur cœur et coupés de leur âme, je pense. Et justement, ce disque, je pense qu'il est aussi fait pour les gens qui écoutent, en tout cas, qui l'écouteront. Il est fait aussi pour se poser, prendre le temps d'écouter une guerre. Il y a certaines guerres qui sont longues. Hein. Il y en a une notamment qui fait 11 minutes à la fin. Prendre le temps d'écouter une guerre, et le temps de se poser et écouter son cœur, laisser le mental, voilà entre parenthèses, comme je disais tout à l'heure, le mettre un peu de côté, le mettre en suspens et laisser le cœur parler, laisser le cœur pleurer aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, en écoutant ce disque, ou même sur scène, quand ils m'écoutent, voilà, ils sont tellement absorbés par le chant, par la mélodie, par la vibration des mots, même s'ils ne comprennent pas la langue bretonne, d'ailleurs. Voilà, ils pleurent. Une dame qui est venue me voir après une signature, qui m'a dit, votre dernier concert à l'abbaye de Daoulas, j'ai pleuré pendant tout. Je me dis, comment est-ce qu'elle a pu écouter? Elle a pleuré pendant tout. Voilà, elle avait besoin de... C'est sorti, et là, son mental était complètement ailleurs. Enfin, là, son mental était complètement mis de côté, et ça lui avait fait du bien, certainement.
Oh.
Dans votre grande maison ?
Oui, je suis toujours avec les arbres tout autour de moi. C'est vrai que les arbres, pour moi, sont... L'arbre est pour moi quelque chose d'important.
Vous leur faites des câlins ?
Oui, ou je les regarde, ils sont là. La mer n'est pas très loin non plus. Je ne vais pas souvent la voir, mais elle a 4-5 km. Et le fait de la savoir à côté, pour moi, c'est important aussi. Mais les arbres, pour moi, c'est vrai que, voilà, ils sont enracinés dans la terre, un petit peu comme moi. Et puis, voilà, leur branche est à l'écoute des 7 vents du monde. C'est un petit peu ma démarche artistique aussi. Voilà. Être enraciné dans ma Bretagne et essayer aussi d'être à l'écoute de tout ce qui peut se faire aujourd'hui musicalement et essayer d'être influencé aussi par tel ou tel style musical.
C'est l'Internet qui vous raccorde au monde extérieur, parce que quand vous êtes chez vous, j'ai l'impression que vous n'avez plus besoin du monde extérieur, que les arbres, la mer à 5 km, votre maison, la ville, le jardin suffisent amplement à votre bonheur, à votre vie en tout cas.
Oui, j'ai qu'une télévision, c'est ma cheminée. C'est toujours la même chaîne. Il y a deux chaînes en fait, il y a la cheminée sans feu et la cheminée avec feu. Voilà, et je ne me lasse pas de regarder le feu. Surtout quand il pleut dehors et que les crépitements de la... Quand il y a de la grêle, que les crépitements de la grêle se mêlent au craquement du feu.
Et pourtant, vous êtes un animal social.
Oui, bien sûr. J'aime bien sortir aussi, être en concert. Mais c'est très souvent, on passe d'un extrême à l'autre.
Du noir au blanc et du blanc au noir.
Voilà, tout souvent, je me retrouve dans des concerts où il y a des foules énormes. Et le soir même, je me retrouve tout seul chez moi avec les arbres.
Et ça va ? Le contraste n'est pas trop brutal.
Oui, non, j'aime bien. C'est un équilibre peut-être que j'ai réussi à établir, oui. Oui.
Ce nouvel album, Une mer de larmes, donc le 12e en ce qui vous concerne, s'intéresse à la Gwerth. Il y a un mélange entre l'armorique et les autres, c'était un mélange de troubadours qui étaient d'ailleurs des artistes qui ressemblaient un peu aux griots africains. Je dis bien un peu parce que c'est pas tout à fait la même société. Mais enfin, ils travaillaient pour des seigneurs, donc ils étaient censés chanter leurs louanges, s'ils gagnaient une guerre, leur dire qu'ils étaient géniaux, etc. Autrement, ils n'avaient pas mangé. Quel est l'aspect de la musique bretonne, puisque c'est là où vous êtes enraciné, que vous n'avez pas encore exploré? Parce que vous dites, je sortirai de scène quand j'en aurai plus rien à dire. Là, j'ai l'impression que vous avez fait déjà beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une fenêtre que vous aimeriez ouvrir ?
Oui, sur le Canada Discount, je pense. Là, c'est plutôt, on est plus dans le pleur. Canada Discount, c'est plus la fête.
Bien que ce soit
un chant très souvent en mineur. Hein. C'est vrai qu'il y a des chants Canada Discount en majeur, mais je les trouve assez pompiers, généralement. Toutes mes musiques sont en mineur. C'est ce qui est intéressant en Bretagne, donc le Canada Discount, principalement, très souvent, c'est sur des modes tristes, en fait. Donc ça, j'aimerais bien, parce que le Canada Discount, c'est un... Autant la guerre, c'est un art majeur, hein, pour moi, c'est un art sublime. Et autant le Canada Discount, on est plus dans la technique. Peut-être les paroles sont moins profondes aussi que la guerre, mais il y a une technique vocale qui est très complexe. Au fur et à mesure des années, voilà, je commence à maîtriser aussi et à comprendre, que j'aimerais bien exploiter aussi. Et notamment en lien avec le rap aussi. Parce qu'il y a beaucoup de liens entre Canada Discount, finalement... Il y a beaucoup dans les onomatopées, dans la façon de poser le mot, de jouer avec les mots. Il y a des roulements de langue, il y a une technique vocale qui se rapproche du rap. Il y a des appels aussi. Dans le rap, souvent, il y a un appel à la danse. On appelle, ah, voilà, maintenant je vais chanter avec Dennis et James Digger, etc. Et dans le Canada Discount, on retrouve ça aussi. Il y a des appels à la danse où les chanteurs se présentent, etc. Donc il y a des rapports étroits entre les deux. J'aimerais bien faire une rencontre entre les deux, voilà, rap et Canada Discount. Qu'on a discount tout seul et puis rap et qu'on a discount.
Merci Dennis Prigent, à bientôt alors pour le prochain album, j'ai compris.
Oui, voilà.
Vous êtes le bienvenu.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Kenavo.
Kenavo.
And
Vous a fasciné, j'ai une très bonne nouvelle pour vous puisque l'émission est en podcast sur le www.rfi.fr. À la semaine prochaine.